propre gloire, non pas pour dire, ben, waouh, je suis le premier ministre ou je suis le second du roi. Non, Dieu les a placés là pour un but, pour sauver des dizaines, des centaines et des milliers de personnes. Et j'ai réalisé qu'aujourd'hui, parfois, enfin, moi en tout cas dans ma vie, on peut avoir cette tendance à se voir tout petit. On est plus de 7 milliards, je crois, donc aujourd'hui dans le monde, peut-être 70 millions en France. Et parfois, eh ben, on se dit, mais qu'est-ce que ma vie sur 70 millions ? Et pourtant, Dieu veut t'utiliser, veut nous utiliser pour être un instrument de bénédiction, pour être une lumière dans ce monde. Et pensons à tous ces hommes et toutes ces femmes qui, il y a des dizaines, centaines d'années, je pense à Martin Luther King, je pense à William Booth, qui est un de mes ancêtres, je pense à plein de personnes comme ça, qui ont cru, qui ont eu une vision, Dieu leur a donné un but, un projet, une vision, et ils se sont levés. Là où ils étaient, ils se sont levés, ils ont dit, Seigneur, me voici, j'irai en ton nom. Et ils ont changé leur ville, ils ont changé leur pays, ils ont changé la face du monde, non pas par leur propre force, mais par le Saint-Esprit qui était en eux. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit, mais Olivier, c'est le temps que des Daniel, que des Joseph et que des Esther se lèvent dans ce monde, là où Dieu te place, là où Dieu nous place pour rayonner, parce que nous sommes lumière et sel de ce monde, parce que Christ habite en nous. Amen. Amen. Et bien c'est ce que nous allons voir. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter mon prêche sur Daniel, je vous invite à l'écouter sur le site de l'Église. Mais on va voir aujourd'hui Joseph. Alors Joseph, c'est un personnage qui me parle énormément, pour plein de raisons. Pour ceux qui ne savent pas, mais déjà, mon deuxième prénom, c'est Joseph. Merci papa pour ce beau deuxième prénom. C'est Joseph, donc ça me parle énormément. Et l'histoire, je pense qu'on est tous d'accord, elle est magnifique. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles ou vos smartphones, mais vraiment, on va lire la parole, parce que c'est bon de se rappeler et de faire attention aux petits détails. Si, Joe, tu peux nous afficher aussi la Bible dans Genèse 37, ça serait super. Au moins, tout le monde peut suivre. Genèse 37, verset 1, juste qu'on remette un peu le contexte. C'est très bien parce que la Bible nous donne ce contexte-là. Genèse 37, verset 1. Jacob, qui était le père de Joseph, s'établit au pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bilha et de Zilpa, femmes de son père. Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, qui était Jacob, aimait Joseph beaucoup plus que tous les autres fils, car il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors, ils le prirent en haine, et ils ne voulaient plus lui parler aimablement. Et si vous continuez, je vais paraphraser pour avancer, mais il est dit que Joseph raconte un peu de manière naïve, toute simple, raconte deux rêves qu'il a eus, où il voit des épis de blé qui se prosternent vers lui. Donc il voit aussi 11 étoiles, la lune et le soleil qui se prosternent. Et là, ses frères et même son père rentrent dans une colère. Il dit, mais ça veut dire quoi? Qu'on doit tous se prosterner et puis t'adorer? Et Joseph, qui avait un peu cette... il n'avait que 17 ans, donc je pense qu'il était un peu jeune, mais il partage ça tout naïvement et ne s'est pas rendu compte qu'il allait allumer comme une colère, surtout chez ses frères, qui le prennent en haine, une telle haine qu'ils ont envie de voir mourir leur frère, tellement qu'ils disent, c'est pas possible. Et c'est dur et c'est atroce de voir cette haine qui gangrène dans leur cœur et qui pousse les frères de Joseph à faire du mal. Et on continue au verset 18. Alors que Joseph va rendre visite à ses frères, à Sichem, là où il faisait paître le troupeau, ses frères l'aperçurent de loin, verset 18. Avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. « Voilà le maître rêveur qui arrive, se dirent-ils les uns aux autres. C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. » On sait que l'aîné des frères, Ruben, arrive et dit « Non, ne le tuons pas !» parce qu'il voulait sauver son frère Joseph. Et donc, il dit « Non, juste, on le jette dans la citerne. » Et puis, on sait que des marchands arrivent, ils le font remonter de la citerne et puis le vendent. Waouh! Joseph est vendu par ses frères. Terrible. Mais Joseph, donc, alors qu'il est vendu, donc, il se retrouve en Égypte. Et là, il est vendu à Potiphar. Potiphar, c'était un haut fonctionnaire du pharaon, chef de la garde royale en Égypte. Et là, tout commence. Joseph, il part du plus bas. Il est vendu. Déjà, on a voulu le tuer. Il est sauvé in extremis par son frère Ruben. Ensuite, il est jeté dans une citerne. Ensuite, il est vendu. Et là, il se retrouve dans un pays qu'il ne connaît pas, en Égypte, chez Potiphar. Et là, tout commence. Il est dit au verset 2, donc je vous invite à aller au chapitre 39 de la Genèse, chapitre 39, verset 2. Il y a tellement de choses à dire que je suis obligé de sauter un peu, pas mal de versets. L'Éternel fut avec Joseph, celui-ci réussissait à tout égard. Il était dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Joseph obtint la faveur de son maître, dont il assurait le service et qu'il avait établi comme intendant sur sa maison, en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Et là, c'est très important, je vous prie de bien faire gaffe au verset 5. Allez voir le verset 5. Il est dit, « Dès que Potiphar l'eut établi comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison qu'au champ. » Waouh ! Waouh ! Extraordinaire ! Joseph, hein, qui a failli mourir, qui est vendu, qui... Vraiment, on peut l'imaginer, nous, on lit ça un peu comme ça, mais il faut imaginer cette détresse d'être trahi par sa propre famille. Peut-être qu'ici, certains ont été trahis par ses frères, par ses sœurs, par ses parents, par sa propre famille, mais je pense qu'il n'y a rien de pire que la chair de votre chair vous trahisse. Aïe, ça fait mal. Il se retrouve dans cette maison, dans un pays étranger. Et là, Dieu bénit. Dieu bénit, et ça m'a rappelé de suite, alors que je lisais ces mots, ça m'a rappelé l'Arche de l'Alliance. Vous savez que l'Arche de l'Alliance, au temps du peuple d'Israël, ça représentait la présence de Dieu. Et rappelez-vous cet épisode que vous trouvez dans 1 Chronique 13, alors que David ramenait l'Arche de l'Alliance dans Jérusalem, qu'il était tout content, il y a cet incident malheureux où Uzza, qui était l'un de ceux qui portaient l'Arche, il y a l'Arche qui allait tomber, qui touche l'Arche, et tac, en un instant, il est foudroyé, et puis il est mort. Et là, David, d'un coup, il prend peur, il dit « Voilà, mais je ne vais pas faire rentrer l'Arche de l'Alliance chez moi, c'est trop dangereux. » Et donc, il met l'Arche de l'Alliance chez Obed-Edom. Et vous le lirez dans le verset 14 de 1 Chronique 13. Il est dit que l'Arche de l'Alliance resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, dans sa famille. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Et ça m'a rappelé vraiment ces paroles-là. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que la maison de Potiphar a été bénie? C'est que Joseph était là. Et j'irai plus loin, c'est que Dieu était en Joseph qui était chez Potiphar. Et là, pour moi, il y a une clé pour chacun d'entre nous quand je dis, mais où sont les Josephs d'aujourd'hui pour ce monde? C'est qu'on a besoin que chacun d'entre nous soyons des Josephs, là où Dieu nous a placés. Parce qu'on va le lire, mais l'histoire de Joseph, ce n'est pas un conte de fées. Il a été, comme j'ai commencé à le lire, trahi par sa propre famille. Et vous allez voir qu'il lui est arrivé bien des péripéties. Mais Joseph croyait en Dieu. Mais Joseph plaçait sa confiance en Dieu et il a été un instrument de bénédiction partout où il est passé. Et je pense qu'on a besoin de prendre conscience que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Partout où tu vas, en fait, tu amènes le Saint-Esprit. C'est quoi un temple? Un temple, c'est un endroit où quelque chose réside. Mais là, le Saint-Esprit, parce qu'il habite en toi, partout où tu vas, tu peux être un changeur d'atmosphère. Même quand il y a des querelles, tu peux amener la paix. Même quand il y a la haine, tu peux amener l'amour. Quand il y a la tristesse, tu peux amener la joie. Et Dieu nous envoie en tant que fils et filles de Dieu partout, dans des endroits même sombres, pour changer l'atmosphère et pour bénir les endroits où nous allons. Et je pense qu'il y a un changement de mentalité que nous avons besoin d'avoir, de réaliser que nous ne sommes pas tout petits, noyés dans 70 millions d'habitants en France. Non, nous sommes co-héritiers avec Christ de toutes ses promesses. Dieu habite en nous, Dieu habite en toi. Et Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors si on peut tout, même face aux obstacles les pires devant toi, Dieu peut tout et il peut intervenir dans ta situation. Réalisons-le, Dieu veut bénir. Dieu veut bénir, Dieu aime bénir. Et Dieu a dit que son rêve, c'est que tout homme soit sauvé. C'est que tous entendent parler de Christ et se donnent à lui. Alors, vraiment, prenons conscience que si nous représentons Christ, si nous sommes ambassadeurs de son amour, si nous sommes ambassadeurs de Christ, Il t'a envoyé à un endroit et Dieu ne s'est pas trompé. Et parfois, peut-être que tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, Seigneur? Qu'est-ce que je fais là? Peut-être change tes lunettes et dis-toi que peut-être qu'il y a une raison pour ça. Et que même si c'est difficile, Dieu veut faire des choses extraordinaires au milieu de toi. Peu importe le lieu où Dieu t'envoie, il veut bénir, guérir, sauver. Romains 8, verset 17, comme je vous disais, nous rappelle que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Et je les mets en parallèle avec les versets de Ésaïe 61, hein, bien sûr, qui nous parle de Jésus, mais du coup aussi de nous en tant que co-héritiers. L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. Seigneur, combien aujourd'hui ont besoin d'être délivrés, d'être libérés, de sortir de leur prison? Et Dieu t'envoie, Dieu nous envoie dans ce monde, en 2022, avec ses hauts et ses bas, pour être une lumière, pour leur dire, il y a un espoir. Alors peut-être que tu vas mettre fin à tes jours, alors peut-être que tu veux tout abandonner. N'abandonne pas, parce que Jésus est l'espoir de ce monde. Jésus peut changer ta vie. Et ce monde a besoin d'entendre ça, les amis. C'est que nous nous levions et que nous soyons des lumières là où nous allons. Amen. Amen. J'aimerais vous partager un témoignage que j'ai eu récemment. Je suis désolé, mes témoignages se tournent souvent autour de mon travail, mais j'y passe plus de 35 heures, donc forcément, il se passe beaucoup de choses. Et je recevais donc un client pour leur présenter les chiffres, et là, une fois qu'on a fini ce rendez-vous un peu professionnel, on s'entend bien, donc on parle tout ça, puis je dis, ben voilà, je suis content pour vous, tout ça, et puis il me dit, tu sais, Olivier, je veux vraiment te dire, parce qu'on se tutoie, il me dit, je veux te dire que dès que je te vois, eh ben, je dis toujours à mon mari et puis à mes amis tout ça que tu es lunaire. Je dis lunaire, je connaissais pas ce mot. Et ben il me dit ben oui, partout où tu viens, dès que je te vois, tu rayonnes. Je sais pas, il y a une bonté sur toi, il y a une joie. Et voilà, je veux juste te dire que ça fait du bien. Dès que je te vois, je vois ton sourire, ben ça fait du bien. Et là, j'ai dit mais Seigneur, merci. Merci parce que j'ai dit, ben c'est ça, je pense que tous ici, quand on va travailler, quand on va dans notre maison, quand on va, peu importe où, on a envie d'être un témoignage. C'est super de parler, c'est super de dire de beaux discours, mais le meilleur témoignage, les amis, c'est nous. Le meilleur témoignage, c'est nos sourires, le meilleur témoignage, c'est qui nous sommes. Parce qu'avant de faire, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers, il y avait Christ, et nous pouvons briller. Et je vais même plus loin, ce dossier, quand je l'ai récupéré il y a plus de 2 ans, il était au bord de la faillite. Et cette même cliente, les larmes aux yeux, quelques temps avant, avait confessé, m'a dit « Merci Olivier, merci parce que depuis que tu as repris notre dossier, on est passé d'une quasi-faillite et aujourd'hui leur dossier fonctionne. » Et je crois que comme Joseph, Dieu m'a placé sur le chemin de ce dossier pour être en bénédiction. Et je le crois sans orgueil parce que c'est Dieu en moi, c'est que Dieu en moi. Que depuis que je travaille, il y a une bénédiction sur ces dossiers et sur mes dossiers. Non parce que c'est Olivier Sarkis, mais parce que Christ habite en moi et que la présence, je suis le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et ça fait une différence. Et les clients le voient, et vos patients le voient, et vos collègues le voient, et votre famille le voit. Parce que Dieu habite en nous. Alors je nous encourage vraiment, levons la tête et voyons qui Dieu veut bénir, qui Dieu veut toucher aujourd'hui. C'était mon premier point, que Dieu habite en nous et que tout ce qu'on fait est en bénédiction. Deuxième chose que je voulais vous parler, donc si on va au verset 7 de Genèse 39, je vous invite à le lire donc avec moi. Joseph était un très bel homme, ayant un beau visage, de sorte, donc je vous rappelle que Joseph était dans la maison de Potiphar, Potiphar lui a tout confié, de sorte que la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Viens, couche avec moi ». Mais Joseph s'y refusa et lui dit « Non, 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 mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu ?» Jour, là c'est important, verset 10, ça m'a marqué. Jour après jour, elle revenait à la charge. Jour après jour, elle revenait à la charge. Et je m'arrêtais sur cette phrase. Parce que parfois, c'est facile de dire une fois non. Deux fois, ça va. Mais quand c'est tous les jours, imaginons quelqu'un, j'ai 3 petits-enfants, et bien moi, je dois vous avouer que parfois, je craque. Que parfois, quand j'ai mon fils qui me dit « Papa, je ne veux pas avoir un bonbon. » Je dis, non, mon chéri, c'est pas bon pour toi. Papa, je peux avoir un moment, s'il te plaît. Mais au bout de 4, 5, 6 fois, tiens, prends ton bonbon. Prends ton bonbon, allez, va jouer. C'est une petite blague, mais c'est pour dire que c'est... quand on est importuné, il y a un moment, des fois, c'est dur de tenir bon, c'est dur de persévérer dans ce que Dieu nous a dit. Et ce qui me touche, c'est que Joseph, jusqu'au bout, a résisté. Et on n'a pas le délai, mais jour après jour, ça nous donne une impression que ce n'était pas que 4 jours. Jour après jour, elle revenait à la charge. Je peux imaginer que c'était sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, qu'elle revenait à la charge tous les jours, tous les jours, tous les jours. Couche avec moi, couche avec moi. Mais Joseph, il a tenu bon dans son intégrité. Il a tenu bon parce qu'il savait que c'était mal, il savait que c'était péché. Parce qu'il savait que son maître lui avait tout confié et il est resté fidèle jusqu'au bout. Et c'est écrit, après le verset 10, « Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle et d'être avec elle. » Et il est dit, je paraphrase, mais qu'un certain jour, Joseph était rentré dans la maison pour faire son travail, il n'y avait plus aucun domestique. Et là, sa femme, donc la femme de Potiphar, l'agrippe par son vêtement en disant « Viens, couche avec moi !» Et là, Joseph s'enfuit et il laisse son vêtement. Et on connaît la suite, que cette femme va mentir auprès de son mari et va dire « Regarde, l'hébreu que tu nous as ramené a voulu me faire du mal. » Forcément, Potiphar, croyant sa femme, jette Joseph en prison. Quelle injustice! Quelle injustice! Joseph a été intègre, fidèle jusqu'au bout. Et il se retrouve où? En prison. Et est-ce qu'on ne vit pas ça parfois? Moi, personnellement, je l'ai vécu plusieurs fois. Je dis, Seigneur, mais c'est vraiment pas juste. J'ai été droit, j'ai fait ce que tu m'as dit. Et pourquoi je me retrouve en prison? Pourquoi je me retrouve dans ces endroits si difficiles? Et c'est pour vous encourager, parce qu'il y a une suite à ça. Et peut-être que tu t'es retrouvé aussi dans une prison, peut-être que tu as vécu des injustices, alors que tu dis, j'ai fait ce qui est droit, et pourtant il m'est arrivé ça. Et je veux te dire ce matin, je veux dénoncer un mensonge. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui t'a envoyé dans cette prison. Ou si t'as envoyé, c'est pour un but. C'est pas pour te faire souffrir, c'est pas pour te faire du mal. Et parfois, on a vite cette tendance à mettre la faute sur Dieu. Mais je veux te dire, c'est pas Dieu. Si tu as vécu des injustices, ce n'est pas Dieu. Par contre, ce que je peux te dire, avec beaucoup d'émotion, c'est que Jésus a pris tes injustices à la croix. Lui, il s'est fait malédiction, il a accepté de souffrir, il n'a pas dit un mot face à ses accusations. Et à la croix, il a souffert, son sang a coulé. Et il a pris tes fautes, il a pris tes injustices, tes maladies, il a tout pris à la croix. Alors quand tu vis des injustices, quand peut-être encore aujourd'hui tu vis des injustices, ne laisse pas l'amertume grandir en toi. Mais dépose tes injustices, parce que lui, il sait ce que c'est. Que ça fait du bien d'être compris par quelqu'un qui sait ce qu'il a vécu. Moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 8 ans, mais personne aujourd'hui ne peut comprendre, à part quelqu'un qui l'a vécu aussi. Même avec tout votre amour, votre compassion, il faut le vivre pour le comprendre. Mais comme chacun d'entre vous, vous avez vécu des choses peut-être difficiles, mais quand quelqu'un à côté dit, bah, tu sais, moi aussi, ah, et puis d'un coup, il y a une voix qui dit, toi aussi, et alors comment t'as... Et tac, et puis on s'en compris. Jésus nous comprend. Jésus nous comprend parce que lui, il a été giflé. On lui a mis une couronne d'épines. Lui, il a souffert jusqu'à la mort. Il s'est donné pour toi, pour moi. Et lui, il peut te comprendre. Alors quand tu as un problème, quand tu ne comprends pas, va à Jésus. Lui te comprend en tout temps. Parce qu'il sait ce que c'est que de souffrir injustement. Il était sans, fait de mal. Et pourtant, il est mort. On ne lui a pas ôté sa vie. Comme Jésus a dit, c'est moi qui donne ma vie. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Alors voilà, je vous ai déjà parlé de l'intégrité la dernière fois avec Daniel, mais je sens que Dieu veut remettre une couche avec Joseph, parce qu'on voit que Joseph l'a été. Il a été fidèle dans les petites choses, alors peut-être qu'il l'a fait, mais en tout cas, ce n'est pas écrit à aucun moment dans la Bible. On voit que Dieu se plaint. Et pourquoi? Pourquoi il m'est arrivé ça? Non, lui, il est fidèle et on voit à chaque fois qu'il y a une évolution, parce qu'il est fidèle dans les petites choses, comme dit la parole, eh bien, on lui en confie des plus grandes. Au début, comme dans le prince d'Égypte, pour ceux qui l'ont vu, pour Joseph, le roi des rêves, juste imaginer Joseph qui fait le pavé, qui balaye, tout ça, et puis petit à petit, il a pris du grade parce qu'il a été fidèle dans les petites choses. Et je pense que c'est un encouragement pour nous à rester fidèles, même face à l'adversité, même face aux injustices, restons fidèles. Même si ton patron, il te fait du mal, même s'il te critique, continue de le bénir. Même si notre président, peut-être, et ses ministres ne font pas tout parfaitement, bénissons-les. Soyons que notre langue bénisse, que notre langue proclame des choses qui encouragent même si on n'est pas toujours d'accord, même si on souffre. Et c'est pas moi qui le dis. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Dites du bien sur eux. Proclamez des belles choses sur vos ennemis. Donc pensez à la personne, pas que vous détestez le plus, mais peut-être avec qui vous avez le moins d'affinité, que c'est le plus difficile, qui, dès que vous le voyez, voilà, vous énerve. Eh bien, je t'invite. Et tiens, j'ai même envie de le faire là. Est-ce qu'on peut juste prendre 30 secondes? Fermez nos yeux, pensez à cette personne et dans notre barbe, juste bénir cette personne. Vous imaginez s'il y a 100 personnes qui bénissent leur ennemi, ou ça serait super. Hein, je vous invite, j'ai ça à cœur, juste 30 secondes, pensez à la personne avec qui vous avez le plus de mal aujourd'hui et commencez tout doucement dans votre barbe à la bénir, à proclamer des belles choses, à bénir ses enfants, bénir sa femme, bénir son mari, bénir son entreprise, bénir là où elle est. Et je peux vous assurer qu'il y a une bénédiction à ça. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. On te remet Seigneur toutes ces personnes Seigneur qui ont pu nous faire du mal, toutes ces personnes Seigneur qui même aujourd'hui peut-être sont un peu comme nos ennemis, et on veut les bénir Seigneur. On veut proclamer du bien sur eux Seigneur parce que tu es un Dieu bon et on veut obéir à ta parole. On croit qu'il y a une bénédiction Seigneur à bénir et à ne pas maudire. Amen. Amen. Tenons ferme en Christ. Vous savez, le diable, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et parfois, quand il revient jour après jour, on se dit, mais pétard, comment se débarrasser du diable? Comment se débarrasser de ses tentations? Et bien Jacques, il nous l'a dit au chapitre 4, verset 7. Résistez au mal et il fuira loin de vous. Et je pense qu'on l'a tous vécu ici. Quand tu résistes au mal, que c'est dur des fois de résister à la tentation. Et quand tu résistes, c'est comme d'un coup, tac, il y a une percée, pam, et après ça y est, c'est fait. C'est comme si on t'avait lâché. Et je nous encourage à résister au mal, à rester intègre jusqu'au bout. Et Dieu nous délivrera parce qu'il a dit qu'il ne nous éprouvera pas au-delà de nos forces, qu'il ne permettra pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Alors même si le mal vient, tiens ferme en ses promesses, tiens ferme dans ta droiture, dans ton intégrité jusqu'au bout des ongles, sois droit. Et je peux t'assurer que nous serons des témoignages vivants que Dieu est Dieu, qu'il est tout puissant et que rien n'est impossible à lui. Alors restons intègres jusqu'au bout envers Dieu, ne partageons pas sa gloire, Jésus est notre seul maître. Addiction, soif de posséder, pouvoir, orgueil, refusons toutes ces idoles dans nos vies. Mais nul ne peut servir de maître à la fois, servant juste Jésus. Il n'y a que lui, le roi des rois, on l'a chanté, le Seigneur des seigneurs. Soyons fidèles et intègres envers nos conjoints, fidélité, loyauté et puis nos enfants, bien sûr, honneur dans nos regards, dans nos pensées, dans ce que nous regardons. Restons droits et intègres avec l'aide du Saint-Esprit. Tu peux dire non. J'aime trop cette phrase que quand on dit oui à quelque chose, on dit non à autre chose. Moi, aujourd'hui encore, je veux dire oui à Élodie. Et je veux dire non à toutes les autres. Mais c'est important de rester droit et intègre jusqu'au bout. Et j'ai envie de continuer un témoignage que je vous ai partagé il y a deux semaines. Une fois de plus, ceux qui n'ont pas pu l'écouter, je vous encourage, parce qu'il y a une suite. Je vous avais partagé que je prêchais donc sur Daniel, et vraiment Dieu m'avait vraiment parlé justement sur l'intégrité et être droit. Et alors que je rentrais le lundi matin, je rentre 9h ou 9h moins le quart, je rentre dans mon bureau. À peine je fais un pas dans mon bureau, j'ai mon téléphone qui sonne, j'ai fait l'erreur de répondre. C'est un client qui presque m'incendie, me dit « Ouais, je comprends pas, j'ai plein d'amis, tout ça, qui passe ci, qui passe ça, pourquoi toi toujours faut être comme ça, ça m'énerve, tout ça. » Et c'est un gros client de mon portefeuille, donc j'essaie de le calmer, de dire « Écoute, voilà, écoute, moi je crois qu'il faut être intègre ou quoi. » Et à ce moment-là, comme je l'ai partagé, j'ai entendu deux voix. La voix du Saint-Esprit qui me dit « Sois ferme, vous voyez, jour après jour, sois ferme. » Même parce qu'il revient souvent, donc souvent à la charge. Et l'autre voix qui me dit « Attention, si tu dis non, tu vas perdre ce client. » Et là, ça va faire très très mal. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu tenir ferme. Je ne vais pas vous mentir, ce n'était pas facile. Je balbutiais un peu, mais j'ai tenu ferme. J'ai dit « Écoute, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. » Et bref, on a parlé pendant une heure. J'ai même pu parler de Dieu parce qu'ils sont aussi croyants. J'ai dit « Voilà, écoute, si on croit en Dieu, eh ben, il faut être intègre jusqu'au bout. » Ouais, machin. Bref. Et je passe les détails. Et cette semaine, alors que je leur rendais leur bilan de l'année là, incroyable, donc on parle tout ça, et puis on revient sur cet accident, et puis ils me disent « Tu sais Olivier, on a réfléchi, et en fait ton intégrité, elle nous sécurise. » Alors, on est OK de se soumettre à ce que tu veux, tout ça. OK, ben écoute, on sera droit, et même si c'est des fois râlant, mais OK, on comprend. Et là, vous ne pouvez pas savoir la joie que j'avais de dire, Seigneur, gloire à Dieu, quoi. Gloire à Dieu, parce que je me dis, mais c'est ça. Franchement, c'est pour ça, moi, que je fais ce travail, c'est de voir des clients, de voir des gens transformés. Franchement, même avant tout business, tout quoi, c'est de voir le royaume de Dieu qui soit manifesté. Et quand j'ai ce genre de témoignage, je dis, mais Seigneur, ce n'est pas en vain que nous tournons ferme, ce n'est pas en vain comme le peuple d'Israël s'est plaint des fois, mais Seigneur, à quoi bon te servir? À quoi bon, Seigneur, marcher dans tes voies alors que le méchant réussit? À quoi bon? Mais si Dieu est à l'œuvre, alors restons fermes, parce que nous serons des témoins vivants que Dieu est vivant et qu'il y a une bénédiction à suivre ses préceptes, qu'il y a une bénédiction à le suivre lui et lui seul. Amen, Seigneur. Alléluia. Et ce n'est pas fini pour Joseph. Si vous allez au verset 39, au chapitre 39, maintenant au verset 20, Joseph, il n'est pas donc au bout de ses peines puisqu'il est jeté en prison. Et j'imagine que ça a été dur. Vous savez, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Donc je vous rappelle, il a été vendu par ses frères, déjà trahison. C'est dur, je pense qu'il a dû travailler sur lui et puis remettre sa colère et cette haine à Dieu. Et là, alors qu'il remontait, qu'il était le second de la maison de Potiphar, clac, tout s'écroule, il est rejeté en prison, retour à la case départ. Et ça, parfois, est-ce que c'est pas dur? Je suis sûr qu'on l'a tous vécu. C'est là, tu dis, ça y est, Dieu me bénit, je suis à la bonne place, c'est super, tu montes, et d'un coup, clac, t'es viré, t'es ci, t'es ça, il y a quelque chose qui se passe, et d'un coup, tu perds ta place, ou tu perds je sais pas quoi, et que c'est dur, je trouve, cette montée et redescendre comme ça. Mais encore une fois, Joseph ne s'est pas plaint. Ou en tout cas, il est écrit que Joseph resta fidèle à Dieu. Et au verset 21, il est dit, « Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. » Encore une fois, il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Non, mais c'est incroyable. Il se retrouve en prison et il devient le deuxième du commandant de prison. Incroyable. À tel point que le commandant de prison ne s'occupait plus de rien de ce qui se passait, parce que c'était Joseph qui gérait tout, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir dans tout ce qu'il entreprenait. Les amis, quand on sert le Seigneur de manière intègre et fidèle, tout ce qu'on fait réussit. Prenez le psaume 1, c'est pas moi, hein, je ne parle même pas de mon expérience, mais je le vis, mais je peux vous dire que c'est même pas mon expérience. Prenez le psaume 1. Qu'est-ce qu'il dit le psaume 1? Heureux l'homme qui, selon le conseil des méchants, jour et nuit, il est comme un arbre planté près des eaux. Son feuillage ne... Et tout ce qu'il fait, lui... Amen. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Quand on est branché à Dieu, quand on est près de lui, quand nos racines sont dans son eau, sont dans son fleuve, tout ce qu'on fait réussit. Pas peut-être comme on pensait, ça c'est sûr, et on l'a tous vécu. Mais tout ce qu'on fait réussit. Et ce que je trouve trop beau dans cette histoire, qui est vraie, hein, c'est pas une histoire pour enfants, c'est vraiment la parole de Dieu qui est vraie, c'est que Joseph, hop, re-ascenseur émotionnel, il est jeté en prison. Et encore une fois, tout ce qu'il fait réussit. Et on voit qu'il y a ensuite, je vais vite, mais il y a ces deux nouveaux prisonniers, et là c'est pareil, c'est des petits mots comme ça, mais il est écrit, vous le lirez dans les versets suivants, que les deux prisonniers se sont confiés à Joseph. C'est-à-dire qu'il y a deux nouveaux prisonniers qui arrivent. Tiens, Joseph, voilà les deux nouveaux prisonniers. Je trouve ça incroyable que Joseph vraiment était donc en responsabilité de cette prison, sous le commandement de la prison. Et il y a donc ces deux prisonniers qui arrivent, un panetier et un échanson. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, ils ont été jetés en prison par le pharaon. Et là, vous connaissez cette histoire où ils font deux rêves, chacun la même nuit, et Joseph interprète leur rêve. Et il leur dit que le panetier, donc dans 3 jours, il sera pendu, mais que les chansons, dans 3 jours, il sera rétabli dans sa fonction. Et c'est ce qui se passe. Les chansons est rétabli dans sa fonction. Il se retrouve à servir le pharaon, à servir du vin. Et Joseph, juste avant que les chansons partent, dit « Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi ». Mais il est écrit que les chansons oublia Joseph. Et là, pareil, des fois, donc, on le lit, mais on ne réalise pas. 2 ans après, les amis, 2 ans après, c'est pas 2 semaines, c'est pas 2 mois, 2 ans après, Pharaon fit un rêve. Et je veux juste m'arrêter sur ces 2 ans, ces trois petits mots. 2 ans après, réalisons que des fois c'est long. Des fois Dieu t'a fait une promesse. Dieu t'a dit un jour, tac, 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 tac. Où tu sais dans ton cœur que Dieu a placé un projet. Et parfois, par notre impatience, par notre découragement, on abandonne tel ou tel projet ou telle promesse parce qu'on se dit, mais Dieu m'a dit que, regarde, ça fait 6 mois que je suis là, rien s'est passé. Fais confiance à Dieu. 2 ans après, Joseph, il était pas bien, il était en prison. 2 ans après, donc il restait 2 ans en prison, même avec les meilleurs conforts du monde, c'était pas la prison de 2022. Donc à l'époque, je pense que ça devait être des conditions très compliquées. Il restait 2 ans en prison. Et moi, j'ai réalisé, je dis, tiens, pour ma vie, ça m'a rappelé. 2 ans en prison, je vais encore parler de ma femme, mais ça m'a rappelé, 2 ans en prison, ça m'a rappelé que 2 ans, c'est le temps que je suis resté célibataire avant que je rencontre Elodie. Où, vous savez, moi, j'ai eu la chance d'avoir une bande de potes, donc avec Mathieu, il y avait beaucoup d'autres, aussi mes frères, tout ça. Et en fait, tout le monde s'est casé. Donc, vous savez, donc, on était 15, 14, 13, et en fait, je me suis retrouvé tout seul pendant 2 ans. Eh bien, je peux vous assurer que c'est horrible quand tu téléphones. Alors, ça va, ouais, super. Dis-moi, ce soir, on se referme. Tu comprends, je sais que ma femme, tout ça. Ah, bon, d'accord. Allô, David, dis-moi, ça ne dit pas qu'on allait se faire un trait. Ah non, tu comprends, je suis avec. Ah, bon, bah, écoute. Donc, et j'ai passé quelques soirées seules comme ça, mais c'est pas grave. J'ai pu passer du bon temps avec moi-même et puis avec Dieu. C'était super. Eh bien, je peux vous assurer que c'est long. Et un jour, madame est apparue. Et sur le chemin de Damas, non, pardon, de Gagnères, mais voilà, c'est pour dire que je me suis souvenu de ça, que ben, c'est vrai que ça avait été long, mais je pense qu'on a tous vécu, et essayez de vous rappeler une période de 2 ans, vous avez dit plus tard, ça a été long, ces 2 ans. Et pourtant, Dieu a encore, j'en suis sûr, forgé Joseph. Il lui a préparé à tout ce qu'il allait suivre, tout ce qu'il allait vivre par la suite. Dieu a préparé le cœur de Joseph. Et je veux vous encourager que dans ces temps d'attente, dans ces temps de transition des fois où ça paraît long, dis-toi que Dieu veut travailler ton cœur. Il a dit, rappelez-vous, je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. Et Joseph, je pense que même en prison, même s'il avait un peu de grade, il restait en prison, je pense qu'il était dans un désert. Il a vraiment vécu un désert. Et peut-être que certains d'entre vous, 6 mois, 1 an, même 10 ans, vous vivez un désert. Mais Dieu veut parler à ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Si tu es dans un désert, c'est sûrement que Dieu veut parler à ton cœur. On y est tous passés. Et je peux le témoigner, et je suis sûr que vous pouvez tous le témoigner, que dans vos déserts, Dieu vous a parlé. Il va vous donner une nouvelle idée, il va vous donner, il va vous dire quoi faire, et il va aussi travailler votre cœur. Peut-être que tu as besoin de guérir de certaines blessures, peut-être que tu as besoin de déposer aussi certaines choses, déposer ta vie, déposer tes projets, de vraiment laisser Dieu prendre la main sur ta vie, parce que lui sait ce qui est bon. Alors, ne vois pas ce désert comme le pire moment de ta vie, mais vois-le comme un moment où Dieu veut forger ton cœur pour des choses extraordinaires, comme Joseph. Le jour où, bam, ça va s'ouvrir, il faudra que tu sois prêt et que tu aies emmagasiné les provisions, que ta relation avec Dieu soit comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des moments difficiles encore. Et si tu n'es pas comme ça, si ta relation n'est pas bien ancrée en Dieu, ça peut être très compliqué quand tu seras en position d'autorité. Alors, fais confiance à Dieu, il sait ce qu'il fait. Il ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais. Et j'aime trop ce... Gilles va rigoler, mais... J'aime trop ce verset dans Romains 8, verset 28, qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien. Même quand Joseph était en prison, je suis sûr que Dieu a fait concourir ça à son bien. Et c'est beau, 2 ans après, qu'est-ce qui se passe ? Joseph est appelé par le pharaon lui-même parce qu'il fait un rêve, le pharaon qui l'épouvante, et les chansons se rappellent, disent « Ah c'est vrai, il y a un hébreu en prison qui interprète les rêves. » Et je vais passer vite parce que le temps file, mais vous connaissez en plus très bien cette histoire que Joseph interprète les 2 rêves qui n'en sont qu'un et qui annonce qu'il y aura 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Et là, je trouve ça extraordinaire. C'est que, un peu comme pour Daniel, où je vous rappelle que c'était quand même, forte affaire, parce que Daniel, carrément, Dieu lui a donné le rêve que le roi de Babylone ne voulait pas donner, plus l'interprétation. Et bien là, c'est pareil. Ce que je trouve beau, c'est que, bon, pour le coup, Pharaon dit ses rêves, Mais là, Joseph a l'interprétation et la solution. Et parfois, c'est difficile parce qu'on dit « Ah tiens, Dieu m'a dit que si, que ça. » D'accord, mais tu fais quoi avec ? Et je pense que Dieu donne toujours la solution, soit par toi-même, soit par d'autres frères et sœurs, soit par sa parole, tout ça. Mais j'aime trop de dire ouais, « Voilà, il va arriver ça, mais c'est pas « Oui, attention, c'est le temps de famine. » Mais voilà ce que Dieu propose. Et c'est beau que le pharaon et ses serviteurs disent « Waouh, oui, c'est très, très beau. » Et donc, vous pouvez aller dans vos Bibles, Genèse 41, du verset 38 et 39. Pharaon dit à Joseph, et là, c'est extraordinaire, « Dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras à la tête de ma maison et tout mon peuple dépendra de tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Waouh ! Il passe de la prison à second d'Égypte, juste après Pharaon. Et c'est quoi la solution que Joseph a donnée ? Il a dit, bah tiens, pendant ces 7 années d'abondance, tu mettras 20% ou 1/5 de toutes les récoltes qui serviront pour les 7 ans de famine. Et je trouvais extraordinaire cette sagesse divine. Vous savez, je suis sûr qu'on a tous vécu, mais on a tous soif de plus de ça. C'est la sagesse de Dieu. Il y a les probabilités de ce monde, il y a les raisonnements de ce monde, il y a la géopolitique de ce monde, il y a les finances de ce monde, et il y a tout ça du ciel. Et c'est pas pareil. Et moi, c'est ma prière, et c'est mon dernier point, c'est ma prière, c'est qu'on ait des solutions innovantes pour tout ce que Dieu nous a mis à cœur. Peut-être que ça fait 50 ans qu'on fait quelque chose, on dit, ben voilà, ça a toujours été comme ça. Et peut-être que Dieu veut te donner quelque chose d'innovant, te dire, ben tiens, et pourquoi on ne ferait pas comme ça, différemment ? Et j'aime trop parce que Joseph, ce qu'il a proposé, ça ne pouvait venir que de Dieu. Ce n'est pas juste avec son habileté, on sait qu'il avait quand même bien étudié tout ça, mais avoir cette idée-là, c'est extraordinaire et ça ne pouvait venir que de Dieu. Et c'est Dieu qui donne la sagesse. Et je vous invite à lire les proverbes extraordinaires. Les proverbes, c'est un puits de connaissances, c'est un puits de vérité sur qui est Dieu. Et ça parle beaucoup de la sagesse, notamment dans Proverbe 8, mais plein d'autres versets dans plusieurs proverbes qui nous parlent que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tout part de là. Et Joseph, c'est ça. Joseph, il avait la crainte de l'Éternel. Le mec, déjà, il a compris le point numéro 1. Et je veux nous encourager ici. Est-ce que tu as la crainte de l'Éternel ? Je précise que la crainte, c'est pas « Oh Seigneur, non, s'il te plaît ». Non, la crainte, c'est le respect, c'est l'honneur, c'est dire « Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté ». Quand Dieu dit quelque chose, c'est « Écoute Seigneur, t'es super sympa, mais là, moi, je dois aller jouer au boule, donc je vais te laisser ». Non, non, quand Dieu parle, tu te tais et t'écoutes et tu obéis. Et c'est ça la crainte de l'Éternel. C'est apprendre dans nos vies, même au 21e siècle, même en 2022, de ne pas faire selon nos propres envies. Il me semble que non, si Dieu te parle, et je t'encourage, obéis. Et dans toute la parole, donc il est dit que l'obéissance est préférable à tout, même à ta dîme, même à tout. Obéir à Dieu, c'est essentiel pour nos vies. Si tu veux que ta vie fleurisse, si tu veux que tout te réussisse, si tu veux vraiment être un instrument de bénédiction, obéis à Dieu. Parce que ça, c'est sûr, j'en suis certain, pour chacun d'entre nous, il y aura à un moment donné, tu devras aller à contre-courant. Dieu, des fois, eh ben, donc il marche comme tout le monde, et des fois, il va dire, ben non, remonte le courant. Et même si tout le monde va là-bas, non, non, mais il faut... Non, Dieu m'a dit d'aller là-bas, je vais là-bas. Seras-tu prêt le jour où tes frères iront peut-être là-bas de te tourner et de marcher à contre-courant ? Sois prêt. Soyons obéissants à Dieu. Parce que sa volonté est bonne et parfaite. Donc quand on sait ça, en fait, on dit, ben, ok Seigneur, je te suis. Même si sur le coup, des fois, c'est pénible, on sait que s'il a dit, c'est que c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Et vous savez, ce qui est trop beau, c'est que par cette sagesse divine, Joseph, il a sauvé des milliers et des milliers de personnes. Dieu l'a utilisé pour sauver des milliers de personnes. Pourquoi ? Parce que dans ces temps de famine, première année, ça allait à peu près, deuxième, et au bout d'un moment, il est écrit, et je vous le lis, dans le verset 57 de Genèse 41, que de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était devenue forte dans tous les pays. Grâce à un homme, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est pas y a million, un homme inspiré de Dieu, obéissant à Dieu, intègre en Dieu, il a changé le cours de l'histoire de l'Égypte et de tous les pays environnants. Et comme témoignage, on n'a pas que Joseph, vous en connaissez plusieurs dans notre histoire, dans un homme ou quelques ou une poignée d'hommes qui ont changé le cours de l'histoire. Et nous pouvons être ces hommes et ces femmes qui, dans l'humilité, ancrés en Christ, changeons le cours de l'histoire. Et je pense à ces milliers de familles qui ont été sauvées. Et vous connaissez l'histoire, je ne pouvais pas tout aborder, mais l'histoire magnifique de ces frères qui, du coup, se retrouvent en Égypte. Et Joseph qui se révèle comme étant leur frère et qui pleure comme ça et qui leur pardonne. Mais à chaque fois, moi, ça, je pleure de lire cette histoire de pardon. C'est magnifique. Et Joseph termine dans quelques chapitres plus loin, vous le lirez, alors que Jacob, son père, meurt. Donc ses frères ont peur, on dit, voilà, notre père est mort. Sûrement que Joseph, parce qu'il nous en veut encore, il va nous emprisonner ou nous faire du mal. Et Joseph arrive et dit, ne vous inquiétez pas, vous aviez prévu de me faire du mal. Mais Dieu a changé ce mal en bien, afin, parce que souvent on dit que ça, afin qu'un grand nombre soit sauvé. Extraordinaire. Dieu, même quand on nous fait du mal, donc mon point pour ce quatrième point, c'est de vous dire, même quand on te fait du mal, même quand c'est difficile, même quand tu prends des coups, est-ce que Dieu ne peut pas changer ce mal en bien pour qu'un grand nombre soit sauvé? Moi, je le crois et je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu dans beaucoup de vies ici. Dieu peut changer le mal en bien. Alors, attends-toi à Dieu. Alors, ce matin, qui veut être un Joseph aujourd'hui? Pour avoir des idées innovantes, pour sauver des milliers de personnes, peut-être de la faim, de la maltraitance, de l'indifférence, du désespoir, du suicide, peu importe. Dieu te met des projets à cœur. Dieu, il y a comme tes tripes qui vibrent quand on parle d'un certain sujet. Lève-toi et sois un Joseph des temps modernes. Sois un Joseph pour aujourd'hui, pour que ta famille, ta ville, ton pays, le monde, soit au bénéfice de ce que Dieu a déposé en toi. Ne regarde pas ça, ne fais pas comme le serviteur qui a caché ça sous le sable. Ah, j'ai peur de Dieu. Ça, ce n'est pas la bonne crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est, Seigneur, tu me dis un mot, j'irai. Sur ta parole, Seigneur, je jetterai les filets. Sur ta parole, je jetterai les filets. Quelle obéissance, Pierre. Il a pêché toute la nuit, mais pareil, on lit ça, on dit oui, toute la nuit. Toute la nuit, imaginons, 11h, minuit, 1h, 3h, 4h, 5h. Et au petit matin, là, il y a Jésus qui arrive. Hé, Pierre, jette de l'autre côté. J'ai péché toute la nuit, Jésus, franchement. Mais non, sur ta parole, je jetterai les filets. Il n'a même pas cherché à comprendre. Il jette, et vous connaissez l'histoire, que le bateau a failli se renverser. Extraordinaire. Dieu peut tout. Alors, je vous encourage. Dieu veut nous donner des idées innovantes, des nouvelles choses pour qu'on puisse être en bénédiction. Et je vais terminer par un témoignage qu'on va sûrement mettre en place ici. Vous avez peut-être entendu parler, il y a plusieurs ici qui sont levés pour qu'il y ait un camion de douche pour les SDF. Et ça touche mon cœur. C'est quoi un camion de douche? C'est une idée innovante qui a été faite par un frère à Nîmes et qui veut répandre ça un peu partout en France. C'est un camion qui va pouvoir aller toucher tous les SDF de Montélimar et des environs, qui va se déplacer jusqu'à eux. Souvent, on veut que les gens viennent à l'église, viennent vers nous. Et bien là, on va aller vers eux pour qu'ils puissent se doucher. Pourquoi pas, on peut donc imaginer qu'on leur donne, qu'on leur fasse une petite coiffure, qu'on prenne soin d'eux, quoi. Être vraiment, prendre soin de ceux qui souffrent. Et ça, pour moi, vous voyez, c'est typiquement une idée innovante qu'un frère a reçue, je suis sûr, de Dieu. Et tac, et on voit que ça se multiplie et plusieurs veulent le mettre en place en France et même au-delà de la France. Et je suis sûr qu'il y a plein d'idées comme ça qu'on peut mettre en place pour lutter contre la faim, lutter contre toutes et aider les plus démunis, tendre la main aux pauvres. Alors Seigneur, touche-nous et parle-nous encore ce matin. Amen. Amen. Écoutez, j'aimerais quand même prendre quelques minutes pour prier ensemble.